Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre au château de Rambouillet dans les Yvelines, où avec le Centre des Monuments Nationaux, j'ai pu découvrir les dernières nouveautés culturelles proposées par ce haut lieu de notre histoire et de notre patrimoine. Des nouveautés que je vous invite à explorer à travers trois podcasts, dont celui d'aujourd'hui qui est dédié à l'étonnante et sublime laiterie créée par Louis XVI pour son épouse Marie-Antoinette au cœur du parc de Rambouillet. Le château de Rambouillet est un monument atypique que je vous invite grandement à explorer si vous ne le connaissez pas. Depuis l'appartement d'assemblée, fleuron de l'art décoratif du XVIIIe siècle et du style rocaille ou Louis XV, jusqu'au parc labellisé Jardin Remarquable avec ses canaux, ses îles et ses fabriques, c'est un lieu plein d'histoire et de surprises. En effet, là où l'histoire de beaucoup de châteaux se finit avec la Révolution, celle de Rambouillet se poursuit jusqu'à la République, où il tient lieu de résidence présidentielle officielle jusqu'en 2018. Pour ce début d'année 2024 et depuis la fin 2023, le château et son domaine proposent un programme culturel riche de nouveautés qui devrait plaire aux passionnés d'histoire et de patrimoine que vous êtes. Alors pour commencer les nouveautés de l'agenda du château, sachez que vous pouvez désormais visiter l'appartement de Napoléon Ier, tout juste restauré. Ensuite, et jusqu'au 21 avril 2024, vous pouvez découvrir l'exposition « Rambouillet 1950 dans l'intimité du président » organisée avec le Mobilier National. Elle propose cette exposition de mettre en lumière le mobilier commandé pour Rambouillet et pour l'Élysée par le premier président de la 4ème République, Vincent Auriol, alors qu'il cherche à faire de ses résidences présidentielles de véritables vitrines des savoir-faire français. Dans la continuité de cette exposition, mais de manière plus permanente aussi, les appartements des hôtes d'État ont été rénovés et en partie remeublés, et ils sont donc désormais ouverts au public. Et pour la suite du programme, je vous invite à sortir du château et à vous rendre dans le magnifique parc qui l'entoure. Là, en quelques minutes de marche, vous pourrez découvrir la laiterie de la reine Marie-Antoinette. Bâtie en 1786-87 par Jacques Jean Thévenin à la demande de Louis XVI dans le but de faire apprécier Rambouillet à son épouse peu conquise par le domaine, cette laiterie d'apparat où on dégustait les laitages est sublime avec ses décors sculptés de Pierre Julien. La nouveauté des lieux pour cette nouvelle année se trouve dans le pavillon du roi tout proche. Ici est proposée une nouvelle médiation pour mieux décrypter les secrets et les trésors d'architecture de cette laiterie, mais aussi ceux du jardin anglais et de ses fabriques, comme l'étonnante chaumière aux coquillages, construite en 1779 par Jean-Baptiste Pain de Blède, dont les décors invitent aux rêves fantastiques. Bref, afin de ne pas faire trop long, mais aussi pour que vous puissiez choisir d'écouter le ou les sujets qui vous intéressent plus particulièrement, je vous propose trois podcasts autour des actualités de Rambouillet. Un podcast concernant ma visite de l'appartement de Napoléon Ier, situé au premier étage du château. Un podcast lié au rôle du château de Rambouillet sous la République, à travers ma visite de l'exposition Rambouillet 1950 dans l'intimité du président et celle des appartements créés pour les hôtes de l'État français. Et enfin, un podcast concernant la magnifique laiterie de la reine Marie-Antoinette. Aujourd'hui, ce troisième et dernier épisode Rambolitain est donc consacré à la visite de la laiterie de la reine. Mais avant de vous en dire plus, voici un bref rappel de l'histoire du château de Rambouillet. C'est en 1374 que Jean Bernier, écuyer du roi Charles V, transforme le vieux manoir qu'il a acquis en 1338 au cœur de la forêt de Rambouillet en un premier château fortifié. Une propriété qui passe aux mains de la famille d'Angennes en 1384 et jusqu'en 1699, quand elle est revendue au financier Fleuriot d'Armenonville. Notez que c'est dans la tour médiévale du château que, le 30 mars 1547, François Ier, qui aimait venir chasser à Rambouillet, va mourir d'une infection. Ensuite, en 1706, Fleuriot d'Armenonville va être contraint de céder le château au fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, le comte de Toulouse, qui va à son tour le transmettre à son fils, le duc de Penthièvre. Alors si Louis XV y vient régulièrement chasser en invité de son cousin, Louis XVI décide de le racheter en 1783 et d'intégrer le domaine de Rambouillet à celui de la couronne. Délaissé pendant la Révolution, le domaine de Rambouillet est réhabilité par Napoléon Ier, puis utilisé par les rois Louis XVIII et Charles X sous la Restauration. Charles X va même y abdiquer le 2 août 1830, avant que Louis-Philippe ne le mette en location ou que Napoléon III, sous le Second Empire, y organise des séjours pour la cour impériale. Comme vous pouvez l'imaginer, tous ces hôtes vont modifier, agrandir et embellir le château et ses jardins. Dès 1883, la République s'approprie les lieux et y organise des chasses, une tradition qui va perdurer jusqu'en 1995, quand Jacques Chirac suspend les chasses d'État. En parallèle, dès 1947 et sous l'impulsion du président Vincent Auriol, le château accueille les hôtes étrangers de l'État français, comme ce sera le cas par exemple lors du premier G6 organisé à Rambouillet en 1975 par le président Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, et depuis 2018, à la demande d'Emmanuel Macron, le château de Rambouillet n'est plus résidence d'État et sa gestion est désormais confiée au Centre des Monuments Nationaux. Voilà, alors je vous propose maintenant et sans plus attendre de remonter le temps et de nous rendre à la fin du XVIIIe siècle pour explorer la laiterie construite pour la reine Marie-Antoinette. La La laiterie de la Reine, située dans le parc du château, est l'une des constructions les plus remarquables du domaine de Rambouillet. Alors, pourquoi une laiterie a-t-elle été construite ici, ou plutôt pour qui? Eh bien, nous sommes en 1783, Louis XVI vient d'acquérir le château de Rambouillet et son domaine. Or, il s'aperçoit vite que Marie-Antoinette n'a que peu d'intérêt pour ce château au style démodé et situé sur un terrain marécageux. D'ailleurs, la reine dira de Rambouillet que c'est une crapaudière, un lieu tout juste bon à élever les grenouilles et les crapauds. Alors, pour tenter de lui faire changer d'avis, le roi va décider de bâtir une laiterie au décor luxueusement délicat, où son épouse pourrait venir déguster les laitages qu'elle apprécie tant. Il fait ainsi appel à l'architecte Jacques-Jean Thévenin, qui construit la laiterie et ses dépendances en 1786 et 1787. L'ensemble se compose de deux pavillons circulaires qui encadrent l'entrée, de divers bâtiments latéraux et d'un pavillon central qui constitue la laiterie d'apparat où l'on pouvait déguster les produits laitiers. Le pavillon de gauche, dit pavillon du roi, décoré de quatre panneaux en grisaille réalisés par Pierre-Joseph Sauvage et représentant les quatre saisons, servait de lieu de repos. Le pavillon et les bâtiments de droite étaient, eux, utilisés pour préparer le lait et les laitages. Mais c'est le pavillon central, la laiterie d'apparat, qui intéresse plus particulièrement les visiteurs. C'est aussi le bâtiment qui a nécessité le plus de travail et qui, avec ses riches décors réalisés par le sculpteur du roi Pierre Julien, devait séduire la reine. Sur le fronton extérieur, le médaillon représentant une vache allaitant son veau donne déjà le ton. Bâti en forme de temple, la laiterie s'ouvre alors sur une rotonde majestueuse. La version que nous en voyons aujourd'hui, avec son sol en marbre polychrome et sa table en marbre et porphyre, date des rénovations conduites par Auguste Famin à la demande de Napoléon Ier en 1807. À l'origine, le sol était en marbre blanc et au centre, trônait un bassin circulaire. L'éclairage zénithal de cette première pièce accentue l'impression de hauteur du plafond à caissons, ces caissons composés de rosaces, de feuilles de chêne et de glands. Suivant l'ensemble des murs, des tables de marbre permettaient de présenter la vaisselle en porcelaine de Sèvres qui servait à déguster les laitages. Parmi cette vaisselle, on trouve bien sûr les célèbres bols saints, donc des bols en forme de saint, dont une copie est exposée dans le pavillon du roi voisin. En outre, un mobilier en acajou spécifiquement dessiné par le peintre décorateur Hubert Robert et réalisé par l'ébéniste Georges Jacob était installé ici. Ce mobilier dit étrusque, composé de chaises, fauteuils et tabourets, est en partie visible dans la salle à manger du Petit Trianon à Versailles, pardon, ou ici dans le pavillon du roi encore une fois. Sur les murs, on peut enfin observer quatre médaillons sculptés par Pierre Julien qui représentent les activités laitières, la traite de la vache, le barattage du lait, la tonte des moutons ou encore la distribution de sel aux chèvres. Alors, pénétrons dans la pièce suivante. Cette pièce suivante, dite salle des fraîcheurs, est, à mon goût et je pense pour beaucoup de gens, la plus éblouissante. Lorsque les deux lourdes portes qui la séparent de la rotonde s'ouvrent, on est instantanément transporté dans un univers féerique au cœur d'une grotte enchanteresse. Face à nous, une sculpture de Pierre Julien représente Amalthée et la chèvre de Jupiter. Alors, pour rappel, sur le mont Ida, en Crète, Jupiter, enfant, est caché par sa mère Cybèle pour le protéger de la colère de son père Saturne. Une nymphe nommée Adrastée prend soin de le nourrir à partir du lait qu'elle trait d'une chèvre nommée Amalthée. Ainsi repu, Jupiter ne pleure plus et évite d'alerter son père par ses cris. Voilà, c'est ce qui est représenté donc dans cette statue centrale. Lors de sa création, cette sculpture était agrémentée d'une fontaine qui ruisselait dans l'ensemble de la laiterie pour la rafraîchir. Mais après la Révolution, elle a quitté Rambouillet pour Versailles, le Sénat puis le Louvre, et ce n'est qu'en 1953 qu'elle a retrouvé sa place initiale, donc dans la laiterie de la Reine. Trois reliefs de Pierre Julien viennent enfin compléter les décors muraux de la salle des fraîcheurs. Un médaillon représente une mère allaitant son enfant au-dessus de la porte et deux frises d'inspiration mythologique représentent, sur le mur de gauche, Jupiter enfant chez les Corybantes, ces danseurs et musiciens qui célèbrent le culte de Cybèle et qui, par leur musique, couvrent les pleurs de Jupiter enfant, et sur le mur de droite, Apollon gardant les troupeaux d'Admède. La laiterie de la Reine est un bijou d'architecture néoclassique. Situé à quelques dizaines de minutes à pied du château, c'est vraiment un passage obligé pour qui visite le domaine de Rambouillet. Cependant, si elle nous émerveille aujourd'hui, en a-t-il été autant pour sa destinataire initiale, la reine Marie-Antoinette? Malheureusement pour le pauvre Louis XVI, non. En effet, alors qu'il organise en grande pompe l'inauguration de la laiterie qu'il dédie à son épouse, cette dernière n'est en aucun cas séduite par les décors qui, en réalité, sont beaucoup trop masculins et froids pour cette reine qui aime la gaieté et l'intimité. En effet, les sculptures, vision idéalisée des travaux laitiers, représentent essentiellement des femmes au corps négligemment dénudé. Or, ce décorum sensuel et ultra-féminisé, conçu par des hommes, relève finalement plus du fantasme masculin que du goût féminin de l'époque, et Marie-Antoinette n'utilisera ainsi jamais réellement sa laiterie, au grand désespoir du pauvre Louis XVI. Aujourd'hui, le pavillon du roi voisin de la laiterie d'apparat a été restauré et réaménagé pour permettre de découvrir l'histoire et les clés de lecture de ce lieu atypique à travers de nouveaux outils, des objets, de la vaisselle, des maquettes ou encore des reproductions de décors et de mobilier. On y explore aussi les secrets de la chaumière aux coquillages, un autre bijou architectural du domaine que je vous incite à visiter. Voilà, j'espère que cette exploration de la laiterie de la Reine au château de Rambouillet vous a plu. N'hésitez pas à la visiter, comme le château et son domaine de manière plus générale. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant la visite que j'en ai faite. Vous pourrez aussi y retrouver d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Et enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.